Apprends comme si tu devais vivre toujours, c'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barreau et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de Commerce et de Management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de la colle. Chaque épisode est un peu particulier, mais celui-ci va me tenir chaud au cœur parce qu'on va parler de podcast, donc le truc qui me fait vibrer depuis plus d'un an et demi, parce que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxime. Salut Maxime.
Salut Pierre.
Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais Maxime, c'est le CEO and co-founder, donc le PDG et co-fondateur de Ocha et de Radio King. Alors, si vous n'êtes pas versé dans l'univers du podcast, sachez que dans cet univers-là, il y a des hébergeurs et il y a des grands noms d'hébergeurs. Et Ocha s'est fait une place au soleil dans ce monde-là. En gros, j'interroge aujourd'hui mon fournisseur
Je t'en remercie.
Mais ouais, mon fournisseur et mon diffuseur des podcasts de la colle depuis le début. Et voilà, c'est une belle expérience. En plus de ça, autour d'Ocha, il y a toute une communauté aussi de podcasteurs. Enfin voilà. Autant d'éléments qui vont être hyper intéressants pour moi, j'espère aussi pour vous. Et puis, on est sur la colle, donc il y a les histoires d'entrepreneurs, ça me plaît. Et donc là, on en tient un, les gars, je vous raconte même pas. Donc je suis hyper, hyper curieux. Alors j'ai défloré quelques sujets, Maxime, mais alors est-ce que en quelques mots, tu veux bien te présenter?
Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de.
C'est moi, je suis super fier
d'échanger avec toi. Non, c'est super. Écoute, moi, je suis Maxime. J'ai 33 ans. Je suis marié, papa d'un petit garçon et bientôt d'un deuxième à venir. Je suis, comme tu l'as dit, CEO et cofondateur d'un groupe qui est expert dans l'audio digital qui s'appelle Icréo, qui a deux sociétés, Radio King et Ocha. Et en réalité, par rapport à ta présentation, elle n'est plus exacte. Je ne suis plus CEO de Radio King depuis très peu de temps. C'est mon associé et cofondateur aussi de la boîte qui est désormais le CEO de Radio King. Et ce qui fait que je suis à 100% CEO de Ocha, une plateforme qui permet et qui facilite le fait de partager, distribuer un podcast sur toutes les plateformes d'écoute.
Alors là, pour ceux qui nous écoutent un peu plus tard, on enregistre mi-septembre. Donc voilà, le shift s'est donc fait mi-septembre. On va rembobiner un petit peu. Est-ce que tu veux bien nous... Moi, de ce que j'ai cru comprendre en regardant ton profil LinkedIn, c'est que tout ça, tu l'as commencé alors même que tu étais étudiant.
Oui, alors pas au chat
en tant que tel,
pas au chat directement, mais effectivement j'ai commencé tout en étant durant mes études. Moi j'ai fait des études d'informatique. Ouais. J'ai fait notamment un master informatique dans la région lilloise et effectivement j'étais déjà si tu veux passionné de digital. J'ai toujours été passionné par ça et j'étais aussi à un moment donné passionné par la radio et les deux réunis, ça m'a amené à travailler avec une radio sur internet qu'on appelle une web radio. Ouais. Et à travailler avec cette web radio. Et en travaillant avec cette web radio, j'ai eu envie de créer des services pour les autres web radios pour les aider et pour aider ceux qui souhaitaient lancer des web radios. Et c'est là où j'ai commencé à concevoir avec mon associé une plateforme qui venait vraiment simplifier ça. Si tu veux, ça c'était vraiment en 2010. Donc ouais. 2010, faut se remettre dans le contexte. Hein. 2010, c'est
il y a 11 ans, ça fait un bail.
Ouais, il y a 11 ans, il y a juste, c'est juste 3 ans après la sortie du premier iPhone, hein. Donc, et YouTube, je crois que c'est 2005.
C'est vrai que c'est un bon repère, ça.
Ouais, c'est important de se redire, le premier iPhone, c'est quand même 2007, hein. Donc, on parle d'une époque où, bien sûr, Internet existait, mais où on n'était pas aussi avancé que nous le sommes aujourd'hui.
Ouais.
Et où faire une radio sur Internet, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas simple. Et ça a été notre première volonté, c'était de simplifier le fait de faire une radio sur Internet, de simplifier ce truc qui était tellement complexe, et de permettre à quiconque de le faire.
Parce que, alors, pour la petite histoire, je pense que dans ces eaux-là, j'ai commencé à m'y intéresser, mais c'était tellement compliqué. technologiquement parlant, tout était là. Hein. Enfin, y avait les briques étaient là et ok, il y avait peut-être quelques freins. Tout était là, mais enfin c'était cauchemardesque. Et pour arriver au fameux flux RSS, qui est le flux qui diffuse, enfin qui te permet de diffuser, c'est hyper compliqué. Ou alors il y avait SoundCloud à l'époque aussi qui existait déjà. Sûr. Enfin bon, c'était des solutions technologiquement qui tenaient la route, mais hyper complexes.
Ouais, alors là tu me parles du podcast. En 2010, moi j'étais plus sur la première boîte qui était Radio King et qui s'occupait de la radio. Mais effectivement, pour la partie podcast, écoute, ça a été le même retour. C'est-à-dire que on a commencé à vouloir s'intéresser au podcast à peu près en 2016-2017. C'est là où on a commencé à regarder ce qui se faisait et comment il fallait faire pour lancer un podcast. Et on a eu cette même impression de, oui, il y a des choses qui existent, mais on a l'impression que c'est encore très, très complexe, encore très nébuleux, et où il n'y a pas vraiment de plateforme qui vraiment a réussi à simplifier ce process de, moi, j'ai juste un fichier audio que j'ai envie de transmettre sur toute une panoplie de plateformes d'écoute d'Apple et d'autres, et je veux simplifier ça. Et ça a été notre envie, elle est vraiment partie de là, de se dire, ok, il faut qu'on parvienne à simplifier ce process, que quelqu'un qui demain veut faire un podcast n'ait même pas à prononcer le mot flux RSS pour faire son propre podcast.
Ouais, je comprends. Mais donc, si on revient au tout début, donc c'est l'aventure Radio King finalement qui va initier ton entrée dans l'entrepreneuriat.
Ouais.
C'est jamais innocent. C'est un pas qui n'est jamais innocent. Ça l'est encore moins quand on est étudiant. Alors, est-ce que c'est plus simple ou moins simple, j'en sais rien, mais comment il y a ce shift qui s'opère dans ta tête en disant finalement, plutôt que d'aller bosser pour une boîte quelconque, tiens, je vais me lancer là-dedans.
C'est une bonne question. En vrai, ça a été un peu une évidence pour moi, et j'ai beaucoup de chance parce que ça s'est fait un peu tout seul. Tu sais, j'ai pas vécu ce truc de beaucoup d'entrepreneurs ont, qui est ce moment où ils ont envie d'entreprendre, ils réfléchissent à une idée, ils travaillent sur un MVP et après ils lancent leur truc. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai lancé un projet en marge de mes études en me disant tiens, ça peut être rigolo à faire.
Ouais.
Grosso modo, on était vraiment à ce niveau d'ambition. Et en fait, oui, en le lançant, ça m'a pris aux tripes. Et c'est là où j'ai compris que j'avais vraiment une envie d'entreprendre, parce que en lançant un simple projet ou sur un site web où on pouvait payer en ligne, etc., ça m'a pris aux tripes à tel point que j'avais vraiment envie de faire développer ça, de créer de nouveaux projets, d'améliorer ma communication, d'améliorer mon produit, de m'étendre.
Ça devenait une évidence, quoi.
Ouais, ça devenait une évidence dès lors que j'avais 10 000 idées pour développer le projet sur lequel j'étais. Et en fait, quand je suis sorti de mes études, ça faisait un mini chiffre d'affaires, vraiment pas assez pour payer deux personnes sur une société. Ouais. Mais écoute, on était jeunes, j'ai proposé à
Tu peux manger des kebabs toute l'année, hein, ça passe.
Ouais, non, mais en vrai, quand j'étais étudiant, je trouve que je gagnais plutôt bien ma vie pour un étudiant.
Ouais.
C'est quand t'es plus étudiant et que tu passes en entreprise où là c'est un peu plus difficile. Et là où j'ai gagné un peu moins bien ma vie, mais pendant un temps. Et ouais, j'ai proposé à Charles, mon associé, je lui ai dit, mais viens, on continue, quoi, et puis on verra où ça nous emmène. Mais
vous étiez trouvé comment avec Charles?
Ah, c'était un copain de la fac.
D'accord.
De mes études. On s'est rencontrés là, et ce qui est cool, c'est qu'on avait vraiment la même façon de travailler. On a toujours été, tu vois, le cliché qu'on a un peu avec les développeurs, c'est de dire, bah, ils aiment bien coder, mais généralement, ils aiment pas trop tout ce qui est graphisme,
ouais.
Toute la beauté des choses, c'est pas leur truc. Et avec Charles, on a toujours été, hyper pointilleux sur cet aspect-là de l'interface, que ça soit beau, que ça soit fonctionnel, super, mais que ça soit beau, qu'on aille plus loin, qu'on se dépasse aussi d'un point de vue dans la promesse qu'on est en train de créer, que ça soit pas juste satisfaisant on/off, mais que ça soit tu cliques sur on et en fait ça t'envoie des pétales dans les yeux. Voilà, c'était un peu l'idée.
Sachant que vous étiez vous aviez deux profils tech. Et vous lancez comment dire, on pourrait imaginer que vous ayez cherché des profils, je sais pas, peut-être plus business développement, marketing ou autre. Non, vous y allez comme ça?
Ouais, c'est vrai que on s'est beaucoup focalisé sur la partie tech, mais en même temps on a pris aussi plaisir nous-mêmes à développer cette partie marketing, parce que on savait qu'on voulait vendre en ligne,
ouais.
Et on savait qu'on voulait pas faire du business type pas de business type B2B où on allait démarcher, trouver des clients, négocier, on voulait pas faire ça. On voulait vraiment que les personnes viennent chez nous, puissent acheter à n'importe quel moment et qu'on n'ait pas forcément d'emblée besoin de discuter avec elles pour les les assurer que c'était la bonne chose pour elles. Et en fait, tu vois, sous cet angle un peu de se dire ça veut dire qu'on a essayé vraiment d'automatiser aussi cette prospection commerciale. Nous, on adore automatiser les choses, et on s'est dit, mais comment on peut faire pour automatiser le fait que on arrive à vendre sans être nous-mêmes là? Et en fait, c'est ce qu'on a fait, et aujourd'hui ça marche encore comme ça, c'est-à-dire que le jour, la nuit, on vend, et on a personne qui forcément est là pour parler au client qui va mettre sa carte bleue et acheter. Et donc on a vu ça sous cet angle, on s'est beaucoup focalisé sur le produit. Je pense que ça avait une vertu qui est que le produit fait parfois aussi ton marketing, c'est-à-dire que quand tu te focalises beaucoup sur ton produit et qu'il est très 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 bon par rapport à la concurrence, ça fait aussi un effet un peu boule de neige où on en parle beaucoup et où t'as moins de churn et donc ça marche mieux. Mais en même temps, on s'est beaucoup focalisé là-dessus. On était moins focalisé sur le marketing, sur la conversion, etc. Et on aurait très certainement pu améliorer des choses.
T'aurais pu aller plus vite, mais à la rigueur, ce qui est intéressant, c'est alors le projet même commence à marcher pendant vos études. Le drame de tous les entrepreneurs, c'est d'avoir un super truc, mais que personne ne sache. Comment au tout début vous arrivez à alpaguer les premiers clients de Radio King? Et d'ailleurs ça fait quoi exactement Radio King?
Alors Radio King, si tu veux, c'est un peu comme Ocha, c'est une plateforme sur laquelle tu peux te connecter. Tu peux prendre un compte chez nous, un abonnement chez nous, et tu vas avoir une plateforme, c'est un logiciel en ligne sur lequel tu peux clairement ajouter tes musiques.
D'accord.
Ça, c'est la première partie, tu ajoutes des musiques. Faut-il encore avoir des musiques sur son ordinateur, mais l'idée, c'est tu ajoutes déjà tes musiques ou tes fichiers audio. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir, comme une radio, créer un peu ta programmation. C'est-à-dire que tu as un calendrier et tu peux vraiment dire, tiens, moi, tous les matins, j'ai envie d'avoir de la musique rock de 8h à 10h. Et à 10h, je veux que ça soit une émission que j'ai préenregistrée à l'avance, qui soit diffusée. Mmh. Et tu vas vraiment créer comme ça ta grille d'antenne qui, en fait, va se jouer tous les jours et toutes les heures, etc.
Ouais.
Et tu vois, au final, de tout ça, c'est que ça te crée une radio, un flux audio qui fonctionne tout le temps, que tu peux tout le temps écouter. Et bien sûr, en plus de ça, Radio King te permet d'avoir des outils pour être visible, notamment sur le web, d'avoir ta propre application mobile, d'avoir même des applications connectées dans ta voiture, d'avoir une application sur les enceintes connectées. Ce qui fait que tu as créé ta radio, mais en plus de ça, tu l'as vraiment diffusé sur tout l'univers digital audio qui existe autour de toi.
T'as tout le broadcasting, le broadcasting qui va derrière.
Totalement, totalement.
Mais alors, les premiers, justement, comment tu les accroches?
En fait, on a eu une démarche de dire, en fait, ce que je viens de t'expliquer, et il y a beaucoup d'auditeurs qui très certainement se disent, bah c'est super, mais ça me concerne pas.
Ouais.
C'est normal en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour des passionnés de radio, de musique, ou même d'animation, parce que tu peux animer en live. Mais ça ne concerne pas tout le monde. C'est vraiment un truc de niche. Donc déjà, on s'est dit bon bah on va pas cibler des gens. On sait pas.
On ça peut sert pas à rien de faire une pub à la télé ou à la radio d'ailleurs.
Non, et même sur le web, c'est compliqué. Comment tu vois, si tu veux faire une pub sur Facebook, tu cibles comment les. Alors tu peux cibler simplement par centre d'intérêt, mais les personnes qui aiment la radio, c'est pas forcément des personnes qui aiment en faire. C'est parfois des personnes qui aiment juste en écouter. Donc plutôt de faire ça, on s'est dit bon bah on va essayer plutôt d'être là au moment où on nous cherche. Et le moment où on nous cherche, c'est typiquement, si quelqu'un avait envie de faire une radio sur Internet, la première chose qu'il ferait, tu sais ce que c'est?
Il tape web radio dans Google.
Ouais, même plus précisément, il taperait créer une web radio. Parce qu'il veut, lui, créer une web radio.
Okay.
Ou héberger une web radio. Il va taper ça. Et c'est là où on a été très très fort avec Charles, c'est qu'on a su, à travers du contenu, à travers des techniques de SEO, etc., se positionner dessus. Et aujourd'hui, quand tu tapes créer une radio, créer une web radio, tu tombes forcément sur nous.
Alors SEO, maman, c'est Search Engine Optimization. Donc ça permet d'optimiser son référencement par le moteur Google. C'est le référencement naturel, c'est-à-dire que c'est l'algorithme de Google qui va déterminer que ton site est le plus pertinent en fonction de telle recherche. Et c'est compliqué, cauchemardesque, éventuellement. Alors je sais pas si c'est des mots clés très compétitifs. Parce que ça peut être le cas hein, sur certains à cette époque-là d'ailleurs quand vous vous lancez il y a d'autres solutions qui existent vous êtes face à qui?
Ouais, alors la première à qui on est avec qui on est en face, c'est une boîte française qui à l'époque est aussi grande que nous. Hein, je pense que c'était deux trois mecs qui faisaient ça et qui sont là depuis quelques temps. Et très vite on prend le marché. Très vite on prend le marché. Au bout de 6 mois, on devient leader français.
La qualité produit.
Pas sur la qualité produit, même en termes de nom, parce qu'on a Alors le produit a fait que oui, très clairement. Mais en plus de ça, grâce à cette visibilité qu'on avait avec Google, on était au-dessus d'eux. Si tu veux, c'est que avant, c'est important pour nous parce que comme c'est notre premier moyen d'acquisition. Quand tu tapes créer une radio sur Google et que avant il y avait ton concurrent en première place et que 6 mois après c'est toi qui passes en première place, ça joue mais énormément. Et ça on a réussi vraiment à le faire en 6 mois. On était leader, on était devant eux là-dessus. Et aujourd'hui on les considère même plus comme concurrents parce qu'on a une taille qui est plus du tout celle que l'on était. Et eux ils sont restés à leur taille. Donc
vous avez pris des coups de Trafalgar en termes de référencement, ça s'est arrivé parce que alors pour ceux qui connaissent pas ça, mais régulièrement l'algorithme de Google est changé. Ça a toujours des noms de code d'ailleurs. Il y a un moment c'était Panda. Enfin bon, il y a toujours des noms de code et parfois un site peut prendre une méchante claque et redescendre dans les classements.
Ouais, on a eu des périodes de baisse, etc. Mais rien de trop significatif. On a toujours su s'en sortir ou passer par d'autres moyens. Évidemment, il ne faut pas mettre toutes ses billes au même endroit. Donc on arrivait à gérer par d'autres moyens d'acquisition.
Et toute cette plateforme là, c'est vous qui l'aviez intégralement montée, pensée.
Ouais, bien sûr.
T'as vos petits doigts musclés, vous avez codé.
Alors, pas uniquement moi et Charles, parce que très vite on a aussi embauché des personnes pour nous aider là-dessus, et c'est important parce que c'est grâce à moi et Charles, mais aussi et beaucoup grâce à ces premiers salariés qui nous ont rejoints, qui sont d'ailleurs encore chez nous aujourd'hui et qui nous ont fait confiance et qui nous ont permis d'en être là aussi. Il faut être extrêmement reconnaissant de ça.
Tu t'es toujours dit tiens là il y a un business, on a de l'or dans les mains, il y a un marché ou justement sur les premiers mois, les premières années, c'était on regarde et puis on verra bien.
Alors pour Radio King, vraiment on l'a fait en mode passion. C'est qu'on s'est dit, On a envie de faire ça. Si ça nous permet d'être payé déjà, c'est très bien. Mmh. Franchement, si ça nous permet...
Lifestyle business.
Ouais, tu vois, on s'est dit, bah, si on peut déjà être payé, vivre un truc sympa, vivre une aventure, enfin, tu vois, on a quand même de la chance de vendre un produit qui permet d'éditer de la radio. Quand je dis qu'on sauve pas des vies, on en est très, 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 très loin. On fait juste un produit qui est hyper kiffant à utiliser, quoi. C'est ça, c'est pareil, on fait pas un produit de B2B.
L'autoroute du kiff.
Mais c'est vraiment un produit kiffant, quoi. Je vois d'autres startups qui sont sur des problématiques hyper business, etc. Ton produit, c'est quand même un truc hyper business, quoi. Nous, on permet à des gens de créer des radios.
Ouais, t'es dans le loisir, dans l'entertainment, non, etc. C'est fun.
Ouais, ouais. Et en même temps, je blague là-dessus. On a évidemment des entreprises qui travaillent avec nous, des radios, même d'autres types d'entreprises, etc. Donc, il y a quand même du business réel.
Ouais, parce que moi, j'ai cru voir passer les EDF, AXA, BNP, Decathlon. Alors, peut-être sur Ocha, etc.
Ouais, beaucoup sur Ocha.
Mais, va pas me dire que tu fais pas du B2B, hein, derrière.
Non, il y en a clairement. Mais même, tu vois, tu me parles de ces boîtes-là. Évidemment, il y a des enjeux importants, etc. Mais, les personnes même avec qui on traite là-dessus, c'est beaucoup plus sympa parce que on se parle podcast, tu vois, on fait du podcast, donc bien sûr qu'il y a des enjeux très très sérieux et très importants en termes de communication pour des grands groupes, mais on parle quand même du podcast, donc ça ne touche pas à leur métier direct et c'est là où c'est généralement
et puis plus sympa la matière première est sympa, je comprends. Justement, alors on se replace dans les premières années. Ça prend vite ou c'est quoi la courbe, c'est la hockey stick comme disent les Américains ou c'est une progression correcte?
Non, c'est pas on est sur un marché de niche, donc clairement sur Radio King c'est une progression correcte, correcte plutôt bonne quand même, hein, parce que on a toujours été rentable, mm-hmm, déjà pour
ça c'est quand même Noël, ça, ouais.
Sans lever et sur nos fonds propres, ouais, c'est vraiment top, avec une progression de l'ordre de 30 à 40%, ce qui est pas du tout mauvais, mais qui aurait pas nécessité plus, parce que à nouveau, en étant sur un marché de niche là, sur la radio, ça aurait pas nécessité de faire beaucoup plus d'investissement, parce que ça aurait été à perte.
Alors, pour mon côté, Tekos, tout ça, ça demande quand même un certain nombre d'infrastructures. Puis tu dois servir finalement, beaucoup de clients pour tes clients potentiellement. Et si on est dans ces années-là, c'est l'avènement des infrastructures dans le cloud, etc., etc. C'est comme ça que vous partez ou vous avez vos propres serveurs dans un garage?
Alors on pouvait pas et encore aujourd'hui sur cette partie-là, on peut pas aller sur le cloud parce que c'est trop cher pour nous.
Ah bon?
C'est très cher le cloud, hein, c'est très très cher en termes de bande passante, on héberge de la bande passante, c'est-à-dire que là, au moment où je te parle, on a des milliers d'auditeurs qui écoutent, sur le mois on a des millions et ça coûte forcément très 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 cher.
D'accord.
Donc on doit être un peu plus malin, trouver des techniques, etc. Donc je te confirme que notre infrastructure sur Radio King, elle est monstrueuse parce que c'est extrêmement technique, extrêmement compliqué. Je pense que c'est la meilleure d'ailleurs des barrières à l'entrée parce que vraiment c'est très très compliqué.
Puis il faut tenir la charge.
Il faut tenir la charge, mais ouais, alors ça c'est l'avantage d'avoir aussi une équipe, Charles qui gère très bien ça aussi. On a toujours su le gérer. On a fait des super pics d'audience, mais on a toujours su gérer ça avec des serveurs. Je te dis pas qu'il y a jamais eu de coupure, hein. Ça, c'est des moments les plus embêtants. Mais on a toujours su le gérer. Je touche du singe, mais pour l'instant, on n'a jamais eu trop de soucis.
Tout ça, finalement, voilà, Radio King fait son bonhomme de chemin, et commence à truster le marché. D'ailleurs, vous trustez le marché francophone, de manière générale.
Ouais. Et très vite, on veut internationaliser le produit.
Ouais.
Je pense que c'est à peu près, tu vois, on sort de nos études avec Charles et on commence vraiment Radio King à peu près en 2013. Et je pense qu'on va être sur une première internationalisation US UK à partir de 2015 2016,
d'accord,
chose comme ça,
ouais.
Mais sans sans se déployer localement là-bas, c'est ouais. Notre avantage en tant que société web digitale, c'est qu'on a plutôt
tu peux être agile,
créer quelque chose à distance, quoi, ouais. Internationaliser à distance. Et aujourd'hui, c'est une part, c'est une part importante de notre chiffre d'affaires qui est fait dans d'autres pays que la France.
Tout ça en autofinancement toujours.
Oui, sur Radio King, ouais, tout le temps.
Ok, très bien. Ça me fait penser à un truc, parce que c'est aller par exemple à l'international, c'est une décision majeure. C'est quoi la logique de la prise de décision entre toi et Charles? Vous êtes à 50-50. Voilà comment on vit avec son associé, parce que là ça fait 11 ans que vous vivez ensemble. Vous êtes un vieux couple, comment on vit bien avec son associé?
On vit bien déjà en étant en connaissant bien son associé. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a à différents moments de l'entrepreneuriat, on a eu des exercices qui nous ont permis de mieux comprendre l'autre. Des exercices soit psychologiques pour savoir quelles étaient plutôt nos forces, nos faiblesses, comment on réagissait, etc. Donc ouais. Qu'on s'est partagé mutuellement pour vraiment comprendre comment parler à l'autre, voilà, qu'est-ce qui va permettre à l'autre de prendre une décision. Voilà, moi je peux te dire par exemple Charles, pour prendre une décision, il a besoin d'éléments extrêmement rationnels. Il n'est pas, c'est pas un foufou, donc il a besoin qu'on lui amène de la data. C'est bien, c'est important. Moi, je suis un peu moins là-dessus, donc ça permet d'être un peu.
C'est bien, ça veut dire qu'il y a un équilibre aussi.
Ouais, c'est ça, c'est trouver cet équilibre. On a fait d'autres choses sur les valeurs, savoir pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui nous motive, quelle est la raison pour nous intrinsèquement de nous lever le matin, de tout donner pour que ça réussisse. Qu'est-ce qui nous motive derrière? Et même si on n'est pas d'accord d'ailleurs par ailleurs sur forcément sur le pourquoi, parce que c'est très très personnel.
Ouais.
L'important c'est de comprendre qu'est-ce qui motive l'autre et de faire toujours en sorte que à la fois on fasse en sorte de venir apporter sa propre valeur et de compléter sa propre valeur, mais tout en faisant en sorte que l'autre aussi soit complété. Et puis après énormément d'échanges à bâton rompu, ça c'est clair. Je crois qu'on s'est vraiment jamais engueulé, mais par contre on a eu des discussions parfois dures dans leur signification ou dans ce qu'elles pouvaient se dire ou dans ce qu'elles décrivaient, tu vois. Quand je dis ça, c'est de pouvoir vraiment se dire les choses, quoi, de pouvoir dire ouais. Ah, je pense que t'as pas été bon et tu vois, mais d'avoir une franchise absolue.
Tu sais, c'est un peu la définition de l'amitié, c'est de connaître les défauts de son ami, mais de l'aimer quand même. Voilà. Et ce qui donne une vraie transparence aussi. Et
ouais, c'est ça. C'est assez juste ce que tu dis, c'est-à-dire que je connais les défauts de Charles, mais comme je suis à peu près sûr d'avoir tout autant de défauts aussi, c'est que je l'apprécie d'apprécier mes défauts, d'accepter mes défauts.
Ouais, c'est ça.
Et donc en échange, j'accepte d'apprécier les siens. Voilà.
Alors, vous êtes à ce moment-là, donc ça doit être quoi, 2016-2017. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Vous commencez à vous poser la question autour du podcast, c'est ça, c'est bien ça. Donc, a priori, vous êtes dans l'univers de l'audio de toute façon. Donc, le mouvement, les mouvements autour du podcast, vous les voyez, vous les sentez, vous les entendez, c'est le cas de le dire. À quel moment vous dites tiens, là, il y a peut-être un pivot? Alors, ça peut être un pivot ou pas, d'ailleurs, parce que vous avez un business qui marche, donc tu vas pas le flinguer, ce serait un peu couillon. C'est mieux comprendre comment vous avez appréhendé ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit tiens, on va créer une autre marque, une autre plateforme, un autre produit? Comment tout ça s'est articulé dans vos têtes torturées?
Alors, déjà, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je suis pas sûr que c'est parce qu'on était dans l'audio purement. Enfin, si, ça jouait, mais tu vois, je prends par exemple les radios avec qui on travaille beaucoup encore aujourd'hui et avec qui on travaillait déjà avant, qui sont les premières concernées en réalité, parce qu'elles, c'est elles qui produisent de l'audio. Sauf qu'elles ont toujours produit de l'audio en live. Et ben, écoute, moi de mon expérience, c'est quand même celle qui arrive le plus tardivement à faire du podcast.
C'est vrai.
Se mettre au podcast. Ouais. C'est assez amusant. Et pourtant, oui, elles sont, c'est les premières à faire de l'audio.
Elles ont le contenu.
Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est très difficile quand t'as un business de dire, bah, je vais totalement le déstructurer et faire totalement différemment de ce que j'ai fait.
Ouais.
Et pour elle, c'est ça. C'est vraiment de totalement modifier la façon dont elle faisait les choses.
Il y a une vraie résistance au changement.
Donc c'est très difficile. Nous, ce qui nous a amené à faire ça, déjà, on avait envie de prendre du recul. Ça faisait effectivement quelques années. On avait une boîte qui tournait bien, avec une jolie croissance, etc. Et ça marchait bien. Et je pense que ça a venu aussi un peu de moi, dans le sens où, ben voilà, je voyais que ça tournait bien. Et peut-être qu'au fond de moi, je cherchais aussi un nouveau challenge, un nouveau projet. Et en posant un peu à plat, en essayant de prendre un peu de recul sur ce qu'on faisait et sur comment on le faisait, on a très vite compris que c'est assez simple, mais que c'est vrai que quand on se le disait à l'époque, c'était pas, ça paraissait comme une évidence, mais qu'on n'avait jamais eu. C'est-à-dire que en regardant un petit peu ce que faisait jusqu'à présent, ce qu'on avait réussi à faire avec Internet, et notamment par rapport à la radio, on s'est dit, mais oui, on a permis de faire de la radio sur Internet. Mais on n'a pas modifié la radio. C'est pas parce que tu écoutes la radio sur Internet qu'on a modifié la radio. Ouais. Et quand on a pris ça en repère par rapport à d'autres médias, il y en a deux autres essentiels qui sont importants de toute façon, la télévision et la presse. Quand tu regardes la télévision, déjà c'est intéressant parce que la télévision est très proche de la radio. La télévision, c'est un flux linéaire, donc tu peux pas stopper, sauf maintenant, mais avant tu pouvais pas stopper, et avec une offre de contenu très limitée. Sur la télévision à l'époque, t'avais 6 chaînes, t'en as un petit peu plus maintenant, mais ça reste une offre limitée, et en plus de ça que tu reçois par une antenne, et donc t'es assez lié à ce périphérique qui est ta télévision, etc. Et tout ça, tout ce que je viens de te dire, tu peux l'appliquer à la radio. Et quand on a pris du recul et qu'on s'est dit, bah tiens, c'est marrant parce que il y a ce truc qui est arrivé qui s'appelle Internet, et pour autant il y a une espèce de transformation très très importante qui est arrivée avec ça, qui s'appelle YouTube et Netflix. Et pour autant, YouTube et Netflix, ce n'est pas de la télévision. Et c'est ça qui est intéressant et qui nous a amené à penser au podcast, c'est qu'on se dit, mais en fait, c'est de la vidéo, comme la télévision, c'est de la vidéo, mais par contre, la façon de le consommer, l'offre est totalement différente et elle est adaptée à Internet. YouTube a pas fait du live, que tu peux pas stopper, avec une offre très limitée, bien au contraire, ils ont fait du contenu à la demande, avec une offre qui est illimitée parce que produit par qui veut, que tu peux consommer n'importe où depuis ta télé, ton smartphone, ton iPad ou tout ce que tu veux, et que tu vas pouvoir utiliser en mobilité, aussi simplement que ça. Et donc ça, on s'est dit, mais c'est quand même ça, voilà. C'est
ouais. Et 2016-2017, la radio n'a pas été disruptée encore, alors que presse et télé sont en train de l'être. Ouais.
Exactement. Et la presse, pour en dire deux mots, moi, quand je projette ça, en partant du même principe, de ces principes-là, au final, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est du contenu à la demande, très clairement, extrêmement riche, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux et tout le monde produit de l'information, et disponible n'importe où. Donc, j'applique ça, on pourrait même dire ça avec les blogs, etc., mais c'est vraiment, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as cette information-là de cette façon. Et donc, voilà, on est parti de ce principe-là et en mettant ces mêmes éléments sur, et en voulant les appliquer à la radio et à l'audio. Donc, à l'audio. En se disant, mais comment faire pour que le contenu soit à la demande? Pour que l'offre soit riche, que tout le monde puisse créer du contenu et qu'on puisse l'écouter n'importe où, n'importe quand. Et ben, en mettant tout ça, on n'a pas inventé le podcast, mais pour nous, ça a été une révélation que c'était le podcast qui avait un avenir extrêmement pertinent par rapport à la nouvelle façon dont on consommait les médias.
Mais alors là, tu te retrouves devant un vrai choix aussi. Ok, tu fais ce constat, mais tu peux prendre plusieurs voies. À ce moment-là, tu peux prendre plusieurs voies parce que il y a plusieurs acteurs dans ce paysage-là. T'as des hébergeurs, t'as des plateformes d'écoute, t'as des régies publicitaires, t'as des curateurs. Plus tard arriveront des studios de podcast, des incubateurs, la post-production. Donc, tu vois, t'as un champ des possibles finalement à ce moment-là qui est assez large. Alors, vous aviez un historique avec avec Radio King, ok, dont acte. Mais comment vous choisissez finalement, c'est quoi le chemin pour faire ce choix de positionnement?
Bah, écoute, ce choix de positionnement, déjà, on l'a fait en échangeant avec des podcasteurs.
D'accord.
La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a discuté avec des podcasteurs qui avaient des audiences importantes ou pas, pour comprendre c'était quoi leur problématique. D'accord. On a essayé d'aller chercher ça, d'aller comprendre leur problématique. Et puis je te dis, quand nous-mêmes, on a essayé de vouloir en savoir plus sur le podcast, on a eu l'impression, d'un point de vue technique, alors que nous-mêmes, on est des techos de base,
ouais,
que c'était hyper compliqué. Nous-mêmes, on savait pas comment on allait faire pour publier un podcast sur Apple. On comprenait pas, on n'était pas sûr de comment il fallait qu'on fasse, quoi. Au début, Flux RSS, on a fait des tests, on s'est dit, oula, ça va passer ce truc-là. On savait pas si ça allait être approuvé, pas approuvé et tout. Enfin, c'était on était au tout début. Et donc, on a mis le doigt sur la problématique qui était forte pour nous et où on allait pouvoir apporter de la valeur. C'est la première des choses, c'était vraiment, finalement, ouais, on a pris aussi ce qu'on savait faire. On savait héberger de l'audio, oui, en live. On s'est dit, bon, si on arrive à faire du live,
des fichiers audio enregistrés, moins compliqué,
ça devrait être beaucoup moins compliqué. On a trouvé ça super sexy. On a adoré ce que on aimait d'avance ce qu'on allait faire. Si tu veux. Et je pense que c'est un bon premier point de départ,
c'est de
rêver quelque chose et d'avoir tellement envie de l'accomplir ensemble que ça nous prend aux tripes, à tel point que on a à un moment donné stoppé toute la boîte pour se focaliser uniquement là-dessus, pour tous développer ce truc-là. Et ça a été une synergie de fou, d'équipe, de travail collaboratif qui a été juste magique, vraiment un super moment. Moi, je me rappelle de ces moments-là, et c'était beaucoup de créativité, beaucoup d'échanges, de questionnements, de réunions, etc. J'ai encore des vidéos de certaines réunions. C'est drôle avec le temps. Maintenant, c'est très drôle de revoir ça et de voir les questions qu'on se posait à l'époque.
Et là encore, vous arrivez sur le marché. Vous êtes finalement nouveau sur ce marché.
Ouais.
Même question. C'est comment tu fais ton go-to-market?
Alors là, déjà, on avait un produit qui était cool. Je pense que déjà, on arrive avec un produit qui est un peu cool par rapport à ce qui existait juste sur le marché français, parce qu'on s'est intéressé en premier sur le marché français. Ouais. Et on avait un produit qui était déjà très très cool par rapport à ce qui existait sur le marché français. La plupart des podcasteurs de l'époque, quand nous on est arrivé, passaient par SoundCloud. Et
d'accord,
encore aujourd'hui, SoundCloud n'est pas du tout fait pour du podcast. Tu peux le faire, mais c'est vraiment pas fait pour. Et donc, c'est très simple d'expliquer à quelqu'un pourquoi il faut absolument qu'il change, parce que en fait, il a un truc qui est pas du tout adapté pour lui. Et donc ça, on a très vite su avoir des personnes comme ça. Et puis après, on a aussi eu la bonne idée de faire une espèce de plan de lancement où pendant, je sais plus, c'était un mois, on a offert des plans à je crois que c'est à peu près une centaine à 200 personnes qui nous ont fait confiance au début.
Ouais.
Et parce qu'ils nous ont fait confiance au début, en fait, ça a été un peu les premières personnes qui ont évangélisé autour d'eux pour parler de Ocha, pour montrer que ça fonctionnait, pour nous faire aussi des retours de ce qui fonctionnait pas et pour nous aider à améliorer.
De early adopters.
Exactement. Ouais. Voilà. Et ça, on l'a créé très vite parce qu'on s'est dit, bon, vas-y, on va offrir le truc aux 100 premiers, puis on verra ce que ça donne.
Pour ceux qui sont pas complètement versés là-dedans, juste en quelques mots, le principe, alors de base, d'Ocha, parce qu'il y a plein d'autres choses après. Vous avez rajouté des trucs dans Ocha, mais le principe de base, c'est que il y a un seul endroit sur Ocha où je vais poser le fichier audio de la colle que j'ai précédemment monté sur mon ordinateur. Donc je l'upload sur les serveurs d'Ocha, je mets le descriptif, tout ce qui va bien, la vignette, etc. J'appuie sur un bouton. Et derrière, ça distribue chez Spotify, chez Apple Podcasts, chez Google Podcasts, j'en passe. Il y a même des plateformes que moi j'ai découvert en regardant les settings d'Ocha, etc. Et ça, c'est juste génial. C'est-à-dire que c'est un point central et boum, on broadcast partout et partout sur toutes les plateformes, donc dans le monde entier. En termes de puissance de feu, de diffusion, c'est juste incroyable. Hein.
Ouais, mais surtout ce qu'on voulait, c'est que ça soit simple à faire.
Je te confirme, c'est réussi, hein, c'est simple.
Bah merci, parce que c'est ce qu'on a cherché à faire et qu'on a eu les premiers retours, et on les a encore aujourd'hui, et c'est vrai que c'est le premier retour qu'on nous fait. C'est sur cette simplicité, cette facilité de pouvoir faire un podcast et le distribuer simplement. Et c'est notre meilleur retour, parce que c'est la chose qu'on a cherché depuis le début en créant Ocha, et c'est le meilleur compliment qu'on puisse nous faire.
Et après, alors je sais pas si elle fait partie des early adopteurs, mais pas forcément, mais le côté référeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va te servir de référence, c'est que moi j'ai choisi Ocha parce que j'ai écouté les vidéos YouTube de Pauline Léniaud sur comment faire un podcast. Et bah en gros, elle disait bah si vous voulez héberger voilà là il y a les petits Frenchies Ocha. Je suis allé voir direct et donc tu vois le côté comment dire je cherche le terme, mais c'est pas influenceur, parce que sur ce coup-là Pauline est
communautaire.
Communautaire, etc. Et la référence qui dit OK, ça le fait quoi, ça fait le job, ça le fait bien, c'est abordable, j'ai dit affordable, mais abordable, ça a déclenché, et comme tu le disais, c'est, enfin, là, je ne fais que confirmer ce que tu as précédemment dit, c'est-à-dire que t'as un chemin du suspect au prospect au client qui est simple, sans encombre particulier. Donc voilà, vous avez su lisser ça aussi.
Ouais, mais par rapport à ce qu'on disait, tu vois, l'expérience avec Radio King nous a beaucoup aidé parce que on savait déjà faire des plateformes de ce type, et on a pu donc en créer une nouvelle en faisant mieux ce qu'on savait faire, mais en étant encore plus vigilant à tout ça.
Bah, c'est bien,
cette expérience qui nous a beaucoup aidé. Et c'est vrai que si on avait créé sans aucune expérience au chat, bah, ça aurait peut-être pas été la même chose, parce qu'on avait pas les mêmes connaissances. Mais là, on l'a fait avec des mecs qui avaient déjà l'habitude de faire des plateformes comme ça, qui avaient énormément d'expérience et qui ont fait un truc incroyable. Ouais, moi, je suis très fier d'eux parce qu'ils ont fait une super plateforme.
Ouais, je suis d'accord. Le point qui va m'intéresser maintenant, c'est OK, 2017, vous débarquez. C'est 2017 au chat, c'est ça?
C'est 2018.
OK, 2018, vous débarquez. Et on arrive aujourd'hui en 2021. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, en tant que hébergeur de tout cet écosystème, tu vois ce marché évoluer. Alors comment, si tu te replaces comme ça dans les années 2018, 2019, etc., comment tu t'analyses l'évolution de ce marché? Comment tu le vois?
Ouais, écoute, déjà 2018, on a l'impression d'arriver un petit peu tard. Pas trop tard, mais un petit peu après, parce que il y avait déjà des plateformes concurrentes qui étaient là depuis un an, qui avaient déjà pris une belle place, et donc on se dit mince, on arrivait un peu tard. Je crois que Binge est apparu à peu près en 2018 aussi, tu vois, pour une idée, c'est le premier studio de podcast hein, quand même Binge,
oui.
Ouais, on a l'impression d'arriver un petit peu plus tard, mais pas trop tard non plus. C'est-à-dire que on voit quand même cet espace de vague autour du podcast arriver juste après.
T'arrives à l'adolescence du marché.
Ouais, on voit, tu vois, il y a le premier Paris Podcast Festival qui arrive.
Ouais.
Où on est partenaire dès la première année. Et il y a ce truc là qui commence à monter. Voilà. Et ça n'a fait que monter. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Oui, au début, on en parlait un petit peu. On parlait un peu de podcast, mais plus ça allait et plus de mois en mois, j'ai senti un vrai engouement autour du podcast. Voilà.
Mais à ton avis, qu'est-ce qui explique ça? Alors, il y a deux engouements en fait dans tout ça. Il y a l'engouement de ceux qui écoutent. Donc, c'est-à-dire que l'audience augmente. Et l'engouement de ceux qui créent. Comment, d'où ça vient, à ton avis?
Bah, je reviens un peu à mon constat. Moi, à mon sens, c'est quelque chose où on s'est rendu compte de plus en plus que c'était un format audio qui était beaucoup plus cohérent par rapport à notre à la façon dont on vivait aujourd'hui. C'est-à-dire, je précise, hein, c'est que toi et moi, par exemple, Mmh. On consulte pas du tout la même chose. Alors que on revient peut-être 20 ans en arrière, bon bah on se voit la machine à café, on se dit t'as regardé le truc sur M6, tu vois ?
Ouais.
C'est sûr, on s'aurait dit ça.
Mais moi, je suis encore plus vieux que toi. C'était moi, il y avait TF1, ça s'appelait même pas France 2. Il y avait Antenne 2 et FR3. Hein, si
donc, j'ai connu Antenne 2 aussi, je te rassure. mais tu vois, il y avait tellement peu de choix que de toute façon, on voyait les mêmes choses, on entendait les mêmes choses, on lisait les mêmes choses.
Ouais.
Et là, aujourd'hui, on est des consommateurs médiatiques extrêmement compliqués et difficiles.
Ouais.
C'est-à-dire que on va vraiment aller chercher les personnes qu'on a envie d'entendre, les médias qu'on a envie de lire, les vidéos qu'on a envie de voir, etc. On est très très difficile. Et en audio, bah, c'est devenu pareil. Et c'est normal. En fait, on est devenu très très pointilleux et on a envie d'écouter des choses qui sont beaucoup plus relatives, soit des choses qui nous font plaisir, de la passion, de la découverte, etc. Soit des choses plus professionnelles, mais qui ont un attrait avec notre profession, et beaucoup moins des choses qui sont généralistes. Et c'est vrai que tout ce qui est un peu trop généraliste aujourd'hui, bah ça correspond parfois un peu moins à tes goûts, et c'est vrai d'ailleurs en musique, c'est vrai en...
On est sur l'hyper-segmentation.
Ah ouais, totalement, bien sûr. Bien sûr, et je pense pas que ça va s'arrêter, je pense que ça va empirer, mais d'empirer pour moi c'est la bonne chose, parce que ça ne fait que on ne fait que satisfaire ce que chacun de nous a envie. Et chacun de nous a envie simplement d'avoir des choses plus précises.
Puis après, tu as une part de responsabilité dans cet engouement, enfin toi, Ocha a une part de responsabilité dans cet engouement, justement en simplifiant tout ce process de création. Tu vois, tu évoquais YouTube, fut un temps, produire une vidéo pour YouTube, ça pouvait être compliqué, coûteux, etc., etc. Avec l'avènement des technologies, ça l'est devenu beaucoup moins. Et là, sur la logique de production de podcast, alors Ocha est une brique de tout ça, mais les coûts du matos se sont réduits. Ocha te permet de broadcaster de manière plus large, donc vous avez une vraie responsabilité aussi.
Je sais pas, je le mesure pas et je suis pas sûr qu'on soit si, enfin d'autres l'auraient fait, donc.
Ouais, mais vous étiez là au bon moment.
Oui, tout à fait. Franchement, c'est sûr qu'on est hyper content. Écoute, on héberge des milliers de podcasts. Il y a tous les jours des dizaines d'épisodes qui sont sortis.
C'est quoi les chiffres aujourd'hui ? C'est intéressant, ça.
Sur Ocha, écoute, on est à peu près aujourd'hui, je crois qu'on héberge à peu près 8000 émissions.
Ouais,
8000 émissions actives, hein, de fait.
Ouais.
Et en termes d'audience, je pourrais pas te communiquer. Enfin, ce qu'on a communiqué sur l'un des derniers trimestres de début d'année, c'était à peu près 11 millions d'écoutes sur un trimestre. Donc,
c'est pas mal.
Des podcasts, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal du tout. Tu penses que ça va continuer à grossir ?
Oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. C'est la croissance, elle est ininterrompue depuis ces dernières années, et que je pense que c'est le sens de ça. Il y a eu, tu vois, par exemple l'effet un peu Clubhouse qui s'est lancé, puis qui est un peu redescendu après. Mais
oui, ça a été un peu un feu de paille cette affaire. Hein.
Ouais, tout à fait. Mais c'est marrant parce que moi, ce que j'en ai retenu, c'est les gens ont aimé s'entendre sans se voir.
Ouais.
Et pour moi, c'est un bon indicateur. C'est qu'on a aimé s'entendre sans se voir, et je pense que ce qu'on a moins aimé, c'était de prendre rendez-vous pour le faire. C'est bien parce que le podcast, t'as pas besoin de prendre rendez-vous pour entendre d'autres personnes.
Alors, il y a un autre point qui produit un podcast, c'est une problématique majeure qui est la discoverability. Dis-moi, ouais. Maxime, que t'as une solution pour ce truc-là. Alors, pour ceux qui, on voit à peu près de quoi je parle, c'est quand vous êtes sur YouTube, on vous propose des vidéos, il y a l'algorithme qui va bien, il y a des vidéos qui sont mises en avant, etc., etc. Et donc, il y a je sais pas quel est le terme, mais une discoverabilité. On peut découvrir des choses. Et donc, même si vous êtes tout petit, vous pouvez sur YouTube avoir l'opportunité d'avoir un effet de levier qui est maximum. Dans le monde du podcast, aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Alors, toi qui réfléchis à ça toute la journée, dis-moi que t'as une solution.
Écoute, on a en tout cas des premiers moyens qu'on a déployés et qu'on va continuer de déployer. Déjà, depuis cette année, on a renforcé un axe important chez nous, on a développé un axe très très important chez nous, qui est le marketing du podcast.
Oui.
Et on est convaincu chez Ocha que faire un podcast et de promouvoir, c'est ni plus ni moins que du marketing. Et qu'en fait, quand tu fais un podcast, tu fais un peu ce que je fais moi au quotidien, en tant que chef d'entreprise, en tant que société. Je fais deux choses, moi, à ce titre-là, pour faire croître ma société. Je dois à la fois acquérir de nouveaux clients et fidéliser les clients actuels.
Ouais.
Je fais deux choses. C'est très simple. Et ben, les podcasteurs, c'est pareil. Ils doivent acquérir de nouveaux auditeurs et fidéliser absolument les auditeurs actuels. Ils ne font que deux choses. Et donc, la question, c'est comment on va les aider à la fois à mieux acquérir et à la fois à mieux fidéliser.
Ouais.
Et ça, nous, on pense, alors, c'est ce qu'on a créé à travers ce qu'on appelle, nous, le parcours auditeur. C'est tout un parcours qui permet de mieux comprendre comment l'auditeur va pouvoir devenir fan de ton podcast et comment l'y aider à travers des outils. Et c'est ça qui est important, c'est que nous, on veut développer des outils pour t'aider à la fois sur cette acquisition de nouveaux auditeurs et à la fois sur cette fidélisation. Mais on a déjà commencé, on est déjà par ailleurs très très avancé à beaucoup d'autres plateformes dans ce domaine-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur Ocha, tu vas pouvoir gérer toute ta communication. Quand tu publies un épisode, tu peux gérer toute ta communication depuis Ocha. Mmh. Tu as des systèmes de fidélisation comme la newsletter qui te permet de capter des abonnés sur une newsletter et de les fidéliser à travers un nouveau message que tu
publies
quand tu publies.
Abonnez-vous à la newsletter de la colle.
Ah bah bien sûr, quand tu publies un nouvel épisode, on a des outils pour améliorer aussi le fait d'acquérir et de faire découvrir, par exemple avec le clip vidéo, pour avoir un meilleur teasing, pour mieux mettre en avant ton podcast à travers ça. Et bien sûr qu'on a d'autres choses dans le pipe qui notamment vont t'aider. Moi, je crois beaucoup notamment au pouvoir de la data, mais qui doit être accessible, parce que c'est difficile souvent. Là, on se parle de choses qui peuvent être compliquées et il faut absolument qu'on... c'est notre enjeu, c'est de te donner le meilleur outil tout en un, à la fois d'hébergement, de distribution de podcasts et de communication et de marketing, mais suffisamment simple à utiliser pour que toi, moi ou n'importe qui puisse l'utiliser et que ça ait un réel intérêt et une réelle profitabilité sur l'acquisition et l'audience de ton podcast. Et je suis persuadé qu'on va pouvoir te proposer des outils encore plus forts. Il s'avère que la semaine prochaine, on sort encore des choses
septembre 2021. Mais très bien, moi c'est des super nouvelles pour moi, parce que c'est une vraie pas difficulté, mais c'est un vrai enjeu, parce que
c'est vrai, bien sûr.
Si on fait tout ça aussi, c'est pour transmettre, et donc le plus tu peux transmettre, le mieux c'est. Aujourd'hui, les seuls moyens, finalement, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Et donc voilà, on a besoin de ces effets de levier. D'autant que chose appréciable. Alors moi j'en ai vu un, mais peut-être que ça existe plus. Mais vous avez notamment monté tout un événement en faisant venir des podcasteurs, en faisant venir des marketeurs, etc.
Tout à fait.
Avec des vraies sessions de formation et d'échanges avec vos clients, les podcasteurs en fait.
Ouais, on a fait ce qu'on appelle le Podcast Marketing Summit, donc un événement digital qui avait lieu. Je crois que c'était au mois de juin qu'on a fait ça avec effectivement des experts en podcast et en marketing. Je pense que c'est un événement qu'on va maintenant faire chaque année pour travailler sur ça, pour aider la communauté, parce que c'est pas réservé à nos clients, mais l'ensemble de la communauté à être mieux informé sur ce sujet-là. C'est pas évident. En fait, c'est ça, c'est que tu parles de découvrabilité et il y a deux choses. En fait, il y a ce que toi tu peux faire. Et après, il y a ce que t'attendent des plateformes d'écoute. Bon, il s'avère que nous, on n'est pas une plateforme d'écoute, que on n'a pas vocation à concurrencer ni Apple, ni Spotify, ni
ils ont un peu d'avance, mais pourquoi pas.
Ouais, mais non, franchement, c'est pas notre bataille. Mmh. C'est pas notre bataille. Nous, ce qu'on préfère, c'est faire en sorte d'être bien intégré avec eux et de faire et pour que toi-même tu sois bien intégré avec eux et le font très bien. Et je pense vraiment que celui ou celle qui va te proposer une énième plateforme d'écoute, franchement, c'est c'est compliqué. Je trouve que c'est important d'en avoir plusieurs parce que ça évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais il vaut mieux. Moi, je compte beaucoup sur eux néanmoins pour améliorer ça. Et après, la deuxième chose, c'est qu'est-ce que toi tu peux faire, parce que c'est pareil sur YouTube. Tu peux publier une vidéo et ne jamais être vu. Tu peux publier une vidéo et n'avoir qu'une seule vue.
Oui, je te confirme. Moi, je dois avoir des vidéos avec deux vues.
Bah, bon. Voilà. Donc en fait, on en revient à ça. C'est que dès lors que tu lances un média, il y a vraiment une part et une responsabilité et un travail du créateur, et tu connais bien ça, sur sa promotion. Ouais. Et la question, c'est comment nous, Ocha, on va t'aider et te faire gagner énormément de temps dans la promotion de ton podcast. Mmh. Et ben nous, notre souhait, c'est que finalement, t'aies plus besoin d'aucun autre outil que Ocha à partir du moment où t'as enregistré ton podcast. C'est clair. C'est que ensuite, tu le mets sur Ocha et avec Ocha, on va t'aider à tout faire, à la promotion, à la diffusion, à la monétisation, à tout ce que tu veux.
Avec, et vous jouez, enfin là aussi, il y a plein de trucs intelligents, hein, mais vous jouez la logique communautaire, c'est-à-dire que vous avez créé, enfin, au sein de la plateforme Ocha, t'as une plateforme communautaire où tu peux échanger avec d'autres podcasteurs. Parce qu'il y a d'autres problématiques, hein, quand on monte un podcast, c'est trouver des invités, ce qu'on appelle la cross promotion, c'est être invité dans d'autres podcasts, etc., etc. Enfin, se faire ensemble de la publicité, etc. Et enfin voilà, dans votre proposition de valeur, je trouve le chemin intéressant. C'est pas si vieux que ça, hein, parce que ça a dû se faire là au cours de l'été 2021.
Oui, juste avant l'été, ouais. Tout à fait.
C'est un truc qui traînait depuis longtemps dans les tiroirs, ou là aussi, comment vous en êtes venu à ça?
Alors. Oui, on avait vraiment envie de créer donc ce qu'on appelle aujourd'hui le club Ocha, de créer un club Ocha. Mais cette envie, c'est surtout, elle est venue de la part de nos utilisateurs qui, effectivement, quand tu te lances sur un podcast, tu te retrouves parfois un peu seul devant ton micro et pour autant. Nous on discute avec beaucoup d'entre eux et on voulait retrouver ce moyen de pouvoir les mettre en relation, parce que on voyait des problématiques de l'un qui pouvait répondre à l'autre, etc. Et on s'est dit, mais comment on fait pour animer tout ça? Donc c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment de l'investissement un peu perdu, parce que c'est gratuit, on le fait pas payer à nos utilisateurs, c'est du plus, c'est animé, il y a des personnes qui doivent gérer ça, etc. Donc c'est que du plus pour nos utilisateurs, mais on trouvait ça vraiment essentiel de créer ça. Il y a même maintenant des événements physiques qui sont réalisés, il y a des apéros qui sont réalisés autour de ça. Je sais qu'il y a même des personnes qui font des événements entre eux grâce à ça à côté. Ah ouais, il y a plein d'échanges qui se créent là-dessus. C'est, voilà, nous c'est la meilleure des choses, c'est, on pense que c'est un métier de passionné et qu'il faut pouvoir échanger avec d'autres passionnés. Et qui d'autre que Ocha en France, en tout cas, pouvait le faire, parce que on regroupe quand même la plus grosse communauté de podcasteurs, et donc c'était un peu normal pour nous de lancer ça.
Ça veut dire aussi que vous avez beaucoup staffé, vous avez une vraie croissance. Comment le chef d'entreprise que tu es gère cette croissance, l'onboarding de tous ses collaborateurs? Enfin, ça peut être un peu rock'n'roll, non?
Ouais, en un an et demi, écoute, on a, sur Ocha, en un an et demi, on a recruté 17 collaborateurs, 17 nouveaux collaborateurs, en un an et demi. Ouais, c'est beaucoup, surtout dans des périodes de Covid, et donc de travail à distance. Mais on a un process d'onboarding qui est, à la fois, déjà, on a un process de recrutement qui est bien ficelé, et on a un process de onboarding qui est aussi très, très bien calé.
D'accord.
Qui fait que aujourd'hui, quand on onboard quelqu'un, on sait parfaitement toutes les étapes qu'on fait, que tu sois.
C'est quoi les tips que tu peux donner sur un truc comme ça?
Le plus gros tip, c'est de décrire clairement le process. Parce que très souvent, et je l'ai connu avant de l'avoir, hein, ouais. Parce que tu fais un recrutement ici, un recrutement là, et tu n'as pas assez de recrutement pour te dire, ah ouais, il faudrait que j'écrive un process. En réalité, je trouve que c'est une bonne chose d'écrire un process, parce que c'est là où, en fonction de ta culture aussi, tu vas pouvoir créer une expérience. Et la meilleure récompense que j'ai, c'est quand des nouveaux arrivants arrivent et découvrent cette expérience et sont surpris, parce que ils ont jamais vécu ça dans notre boîte, et ils sont hyper surpris, mais ils sont aussi surpris parce qu'en plus l'ambiance est là et que les gens sont cool, etc. Mais Ouais, c'est vrai que l'expérience elle est bonne là-dessus quoi. C'est des choses tout de même, mais tu sais, on en a, enfin moi j'en ai, même si j'ai pas fait beaucoup, j'ai eu beaucoup de récits là-dessus. C'est quand t'arrives, ça paraît bête hein, mais t'as déjà ton poste, ton écran, ton ordinateur de près. C'est-à-dire que
il est configuré, t'as juste
il est configuré, etc.
Ouais.
On t'a prévu tes réunions et tes rendez-vous pour la semaine. C'est-à-dire que c'est ton premier jour, mais tu sais déjà que ton calendrier il est rempli parce qu'on l'a rempli pour toi, on t'a aidé et on l'a rempli pour toi. On te donne une liste de choses à faire pour découvrir la boîte, etc. Enfin voilà, c'est en fait c'est de faire en sorte que de pas subir le fait que quelqu'un vienne, mais au contraire de faire en sorte de l'accueillir, de lui dérouler le tapis rouge. Et ça, c'est vrai, que ça soit pour un alternant qui reste avec nous que pour une année, ou que ça soit vrai pour un mec qui arrive en CDI, peu importe.
J'ai cru voir, alors je pense que ça devait être pré-Covid, que vous aviez des velléités de lever des fonds pour vous développer encore plus vite.
On a levé des fonds en
C'est gagné.
Ouais, on a levé des fonds en mars 2020.
D'accord.
On a levé 1,2 million pour justement vis-à-vis de cette croissance dont je te parlais.
Ouais.
Voilà.
Après, c'est quoi l'expérience justement l'entrepreneur qui va lever des fonds, comment tu l'as vécu toi?
Bien, parce que ça s'est fait simplement. Ça se fait assez simplement. Enfin, la chance qu'on a, c'est que c'est pas, on n'est pas dans une boîte où il y a zéro chiffre d'affaires.
Ouais.
Et en plus, on a levé.
Puis t'es au-delà du proof of concept, hein. T'as un truc qui tourne, etc. La question, c'est est-ce que j'accélère ou pas?
Exactement.
Combien j'accélère plutôt?
En fait, c'est assez enrichissant parce que pour un chef d'entreprise, quand c'est la première fois, tu découvres plein de sujets auxquels t'étais pas confronté jusqu'à présent. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi sur. Le process, les étapes, un peu les règles du jeu, voilà, c'est très très enrichissant. Il y a beaucoup de choses à découvrir là-dedans, mais il faut généralement s'y confronter pour les découvrir.
Ouais, et puis effectivement, il y a aussi des nouvelles notions à comprendre, les valeurs de pré-monnaie, post-monnaie, etc.
Ouais.
Ça, ça peut être assez rock'n'roll. C'est pas très compliqué à la base.
Non.
Mais je sais pas, il faudra que je trouve en futur invité un spécialiste de ça, parce que justement avec toutes les petites lignes dans les contrats aussi, les pactes d'actionnaires, ça fait partie des trucs auxquels il faut faire particulièrement attention.
Les clauses de bad liver ou de
bad liver, ratchet,
voilà. Oui, non mais il y a 2-3 trucs à voir, bien sûr.
Justement dans le alors je sais pas si tu peux en parler, mais dans vos investisseurs, vous avez t'étais plutôt dans une position confortable, on va dire, mais c'était quoi tes critères de choix pour les investisseurs? Parce que t'es dans une position, tu vois, où tu as pu un peu choisir quand même.
Oui, totalement. Et on a vraiment choisi à tel point qu'on n'a pas été discuté avec d'autres fonds. Parce que pour cette première levée, on avait envie de le faire avec des personnes qu'on connaissait, où on savait que la crainte qu'on avait, si tu veux, c'était de passer par des fonds notamment qu'on connaissait pas et qui auraient pu peut-être nous ralentir dans le sens d'être un peu trop chronophage, trop demandeur d'infos, trop poussif, etc. Et ça, on avait vraiment pas envie parce que voilà, on avait de quoi dérouler derrière, donc on voulait pas être clairement, on voulait pas être embêté sur notre développement. Enfin, et c'est un peu le message qu'on a passé aussi à nos investisseurs, c'est dire bah écoutez, si vous nous faites confiance, faites-nous confiance, mais laissez-nous gérer, parce que très clairement, voilà, on a besoin d'une accélération, mais on veut pas être embêté. Et donc le choix, ça a été plutôt d'aller choisir des acteurs pour nous locaux. Qu'on connaissait, sur lequel on connaissait bien la réputation, et après essentiellement les hommes qu'on a rencontrés et avec qui voilà, on a senti cette bienveillance qu'on écoute, c'est la même bienveillance qu'on va chercher chez nos collaborateurs, on a été la chercher chez nos fonds pour que finalement il y ait quelque chose d'un mix de valeurs qui se fasse bien.
Le plan machiavélique, c'est le développement à l'international, Locha.
C'est une.
Là, vous voyez pas sa tête, mais moi je le vois. Donc là, ça, qu'est-ce que non, je vais rien dire. Surtout de rien dire.
Écoute, on s'en reparle bientôt. Évidemment.
Écoute, voilà, on s'en reparle vraiment bientôt. Voilà, ce sera l'occasion de faire un deuxième épisode. Je t'embête pas plus avec ça. Je vais pas creuser plus que ça. On va arriver vers la fin de cet enregistrement et avec. tu commences à avoir quelques heures de vol d'entrepreneur. Si tu avais un apprentissage à partager ou un conseil à donner à celui qui se pose la question de se lancer, tu lui dirais quoi?
Ah, c'est une bonne question. On pourrait dire beaucoup de choses déjà, je pense.
Ah ouais, mais là il faut une phrase, un truc, le truc qui claque.
De savoir toujours faire appel au bon sens. Être entrepreneur, c'est pas une formation. Il y a pas de cours pour ça. Tu peux avoir fait HEC ou ne avoir même pas de bac. On s'en fout. Le plus important dans ce qu'on fait au jour le jour, au quotidien, c'est d'avoir du bon sens. Et quand je dis ça, c'est que, je l'applique à moi-même, c'est que je trouve, tu vois, parfois je discute avec des spécialistes dans leur domaine, que ce soit des avocats, des comptables, des DAF, ou ce que tu veux, du juridique, etc. Et tu vois que le bon sens, c'est important parce que parfois tu arrives à soulever des erreurs dans des domaines d'expertise qui ne sont pas le tien et qui sont pourtant ceux de ton interlocuteur. Ouais,
alors que les experts l'avaient pas vu, oui.
Ouais, et ça, juste avec du bon sens, hein, c'est même pas de la connaissance, c'est juste du bon sens, et c'est essentiel. C'est le bon sens, c'est le plus important.
Ben c'est un conseil frappé au coin du bon sens, j'en conviens. On va arriver aux 7 dernières questions. Avant ça, et je fais un disclaimer pour les auditeurs. Notre rendez-vous, on l'a pris bien avant. Enfin, on l'a pris début de l'été, ça devait être juin, etc. Mais entre-temps, Ocha a fait un truc intelligent, c'est que ils ont sorti la logique de code de parrainage. Si vous voulez devenir, ah bah attends, et j'en profite.
T'as bien raison, t'as bien
code
raison.
De parrainage. Donc ça, c'est sorti il y a quoi? Il y a 10 jours, 15 jours.
Ouais, je crois, c'est ça. Un peu
donc
près, ouais.
Voilà. Donc c'est le disclaimer, c'est que j'ai pas fait cet épisode pour ça. C'était parce que le monde du podcast m'intéresse et que l'aventure entrepreneuriale de Charles et Maxime, je la trouve hyper intéressante. Donc voilà, dans la description du podcast, vous retrouvez mon code de parrainage si vous voulez vous lancer dans le podcast et devenir client d'Ocha. Justement, Maxime, pour te contacter, si on veut te contacter, c'est, le mieux c'est LinkedIn.
Ouais, clairement. On peut me contacter dessus. Généralement, j'accepte tout le monde. Je m'embête pas, j'accepte tout le monde. Et après, on peut me faire un message.
Eh ben voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on est rentré en contact la première fois. Alors, allons-y gaiement, Monsieur Piquette. Maxime, dis-nous quel est ton mot préféré.
C'est création.
Ouais, c'est aligné.
Parce que quand je commence à dire ce mot ou quand on commence à parler de ça, ça peut partir n'importe où et c'est l'avantage de mon métier qui est de travailler dans le web, c'est que en fait on peut créer n'importe quoi. On n'a pas de limite, on peut créer tout n'importe quoi et j'adore ça parce que j'adore la créativité, j'adore la création et j'adore imaginer de nouvelles choses. Mais j'aime bien création parce que généralement c'est plus c'est pas l'imagination, création tu vas le faire, tu vois. J'aime bien ce concept de ah ouais, vas-y, on va faire un truc nouveau, c'est trop bien.
Ouais, puis on peut avoir une forme de respect pour toi parce que tu gères au sens large et tes équipes gèrent une communauté de créateurs et c'est pas forcément les plus simples à gérer. Donc,
ah non, je suis pas d'accord avec toi, tu
vois. Ouais.
Ah ouais, non. Ah, je les adore. Ah ouais, non, je suis trop content de nos utilisateurs. C'est les meilleurs utilisateurs au monde. Mais je le dis pas, tu sais, c'est vrai parce que c'est des personnes qui sont, tu vois, ceux qui font du podcast sont plutôt des personnes qui nous ressemblent beaucoup, qui sont un peu dans nos âges, qui sont un peu, qui aiment déjà le podcast comme nous, etc. Et donc, on accroche très vite, tu vois, quand on discute avec nos utilisateurs, nous qu'on discute avec nos utilisateurs, on n'est pas à la mode service client d'une grande boîte française, quoi. C'est à la cool et c'est sympa. On peut avoir des discussions hyper sympas avec nos utilisateurs. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces utilisateurs-là plutôt qu'un B2B, par exemple, qui va avoir des
Ouais, on a bien compris que ça te faisait chier le B2B.
non, parce que je travaille beaucoup avec eux. Non, je travaille beaucoup avec eux. Mais c'est pas pareil. C'est évidemment différent.
Ouais. Le mot que tu détestes.
Impossible.
Ouais, ok, c'est très napoléonien, donc impossible n'est pas français.
Ah, mais c'est impossible. Non, mais c'est le mot que j'aime pas. C'est rien n'est impossible et il y a toujours des moyens, il y a toujours des façons de faire, etc.
Je te partage une phrase que je dis 100 fois par jour à mes étudiants, qui est une phrase de Xavier Dolan, le jeune réalisateur canadien, qui, quand il reçoit son prix à Cannes, a cette phrase: je pense que tout est possible à celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Voilà. Je te laisse avec
Allez,
ça.
Parfait.
Prenez une feuille, vous avez une heure. Le son ou le bruit que tu aimes?
Ça va te parler. C'est le souffle d'un micro ouvert.
Ah, j'en peux plus, hein.
C'est vrai, moi j'aime bien.
C'est vrai?
J'aime bien. Ouais, parce que tu sais que ça va, c'est là où ça commence. T'as juste le petit souffle du micro qui est ouvert. C'est pas trop fort.
Ah, non, mais sinon, enfin, c'est parce que aussi je suis pas, en arrivant dans le podcast, j'ai découvert ça, ce souffle-là.
Ouais.
Et j'ai passé des heures et des heures, alors en vidéo YouTube, en truc, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ça. Mmh. Voilà, j'ai appelé Rod parce que j'ai vu des micros Rod. J'ai dit mais c'est quoi ça? Je viens de dépenser un argent fou. D'ailleurs c'est pas vrai. Quand quelques centaines d'euros pour un bon micro, il y a du souffle, etc. Mmh. J'ai dit, mais attendez, c'est normal. Voilà, post-production. Mmh. Donc non, pour moi tu vois c'est pas un bon souvenir. Mais je comprends que ça puisse être. C'est le signe de l'action, en fait. C'est le son de l'action.
Ouais, alors attention, je parle pas du grésillement qui est autre chose, qui est peut-être parce que t'as mis tes câbles.
Non, je parle bien d'un truc d'alimentation.
Ouais, le petit souffle pour dire voilà, ça va commencer à parler, on va commencer à parler, et puis on va masquer ce souffle par la suite, mais on va parler dessus.
Le son ou le bruit que tu détestes?
Ça m'a fait rire parce que j'y ai pensé, c'était hier, où j'étais dans un TGV pour revenir chez moi.
Ouais.
Et j'avais une personne, je sais plus si c'était un ordinateur ou un téléphone, et écoute, il avait eu cette bonne idée d'avoir mis un son sur les touches de son clavier, numérique ou pas, je sais plus. Mm-hmm. Tu vois, c'est comme les mamies qui font ça, je leur en veux pas, mais c'est très très désagréable, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il tape sur quelque chose, t'as un petit bip. Bah, sauf que quand il tape beaucoup, t'as plein de bip 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 qui s'enchaînent, et je trouve ça insupportable, je comprends pas que cette fonctionnalité même existe.
Donc on en notera que Maxime n'aime pas le B2B et les mamies. Voilà, ça c'est fait.
bienvenue
sur la colle, Maxime. quel est ton juron, gros mot ou blasphème favori?
Ouais, je vais pas être original, je crois que c'est putain. Un bon putain quand il y a un truc qui t'arrive et c'est la merde. Généralement, ça fait
ouais,
le travail.
Ouais, mais ça peut être un putain positif aussi, tu vois.
C'est vrai, t'as raison. On peut le voir comme ça, c'est très bien.
Voilà. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée.
Alors c'est celle d'Albert Einstein qui dit la chose suivante: la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas tomber. Et j'aime beaucoup cette
propre
citation.
Des entrepreneurs, ça. Il faut avancer, quoi.
Et ben voilà, t'as tout compris.
Il faut dérouler.
Exactement.
Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire?
Alors, j'imagine bien me retrouver là-haut et qu'il me fasse une petite tape dans le dos, tu sais, en me disant, tu sais, en hochant un peu la tête et en me disant, ah, franchement, beau travail, hein, bien joué. Attends, mais tu vois, juste, parce qu'en fait, c'est drôle parce que quand t'es CEO, c'est important, tu vois, t'es toujours, présent pour féliciter tes équipes, pour leur dire quand elles font bien les choses et tout, et c'est important cette reconnaissance, je trouve qu'elle est vraiment essentielle et dans le management c'est hyper hyper important. Mais quand t'es CEO, très clairement, ne t'attends jamais.
Des fois tu te retournes, t'es un peu seul, hein.
Bah bien sûr, et jamais personne ne viendra te dire franchement bien joué, hein. Ah top, bravo. Non mais jamais. Donc ça, tu le mets de côté dès le début.
Seul Dieu pourra me juger, monsieur.
Seul Dieu pourra dire. Voilà, il n'y a que Dieu au-dessus de moi.
Bah écoute, Maxime, il me reste à te remercier beaucoup de ton temps, de souhaiter une belle longue vie et une grande expansion. Ah, au chat, j'ai compris qu'il y avait des plans machiavéliques que tu nous avais cachés. Donc voilà, ce sera, on aura l'occasion de s'en reparler. Un grand merci et finalement, à très vite, Maxime. Alors.
Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. C'était un super moment. À très très vite.
Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.